pour moi. Tu es tout ce que j'ai, tu es tout ce que je suis, Seigneur. Ma vie n'est rien sans toi, oh Dieu. Ma vie n'est rien, Seigneur. De façon littérale, ma vie n'est rien. Tout ce que je suis devenu, c'est toi. C'est toi l'artisan de ma vie. C'est toi l'artisan de mon bonheur. C'est toi qui as injecté une dose du bonheur, Seigneur, oh Dieu, dans cet homme, dans cette vie, oh Dieu, qui n'avait connu que opprobre, qui n'avait connu que mépris, qui n'avait connu que malédiction, oh Dieu. Seigneur, c'est toi qui es venu, oh Dieu, donner la valeur ajoutée à un homme qu'on méprisait. C'est toi qui es venu donner la valeur ajoutée à une femme qu'on ignorait. Tu es tout pour moi, Seigneur. Je n'ai pas un autre, oh Dieu, que toi. Ma vie n'a personne d'autre que toi. Seigneur, si on m'enlevait Jésus, on m'enlevait tout, oh mon Dieu. Je ne tiens que par toi, Seigneur. Je ne rayonne que par toi, oh Dieu. Il n'y a rien que je sois devenu, que ne soit pas ton œuvre, ô Éternel. Tu es venu dans ma vie, tu es venu dans ma famille. Seigneur, tu as vu la malédiction, tu as vu la pauvreté, tu as vu les péchés, tu as vu la honte, tu as vu l'opprobre. Mais Seigneur, tu es entré, ô Dieu, pour faire de ma vie un rayonnement, pour faire de ma vie, ô Dieu, une histoire exceptionnelle. Comment, Seigneur, ô Dieu, Seigneur, comment ne dépendrai-je pas de toi? Comment ne dirais-je pas, Seigneur, que tu es tout pour moi, oh Dieu. Si les uns ont pour appui, Seigneur, leur char, si les autres ont pour appui leurs chevaux, moi je n'ai que Jésus, moi je n'ai que l'Éternel, mon Dieu. C'est pourquoi je puis dire, quant à moi, j'invoquerai le nom de l'Éternel, mon Dieu. Seigneur, tu es tout pour moi, oh Dieu. Je n'ai personne d'autre que toi. Je n'ai que toi et toi seul, Seigneur. Où irai-je? Que ferai-je sans toi, oh Dieu? Toute ma vie, Seigneur, c'est ta personne en moi, oh Dieu. Tu as effacé, Seigneur, tout ce qui était mur de mépris, tout ce qui était, oh Dieu, poids de la malédiction. Tu as tout ôté pour me donner un avenir fait de l'espérance, oh Éternel. J'ai connu le véritable amour avec toi, oh Dieu. J'ai connu la véritable joie en venant à toi, Seigneur, mon Dieu. J'ai connu, Seigneur, le vrai bonheur en venant à toi, Jésus. Seigneur, qu'est-ce que j'ai chercherai encore dans ce monde? Tout m'est donné par l'œuvre de la croix, tout m'est donné par la croix de Golgotha. Le sacrifice qui a été accompli là sur la croix de Golgotha a ôté mon péché, et non seulement mon péché, mais il a aussi ôté ma malédiction. Tu es tout pour ma vie, oh Dieu. Tu es tout ce que j'ai de plus grand, tu es tout ce que j'ai de plus précieux. Je n'ai pas un autre que je puisse célébrer, je n'ai pas un autre que je puis exalter. Seigneur, merci. Merci de ce que, oh Dieu, tu peux regarder aux hommes comme nous, oh Dieu, et nous donner une place au milieu des autres. Merci de regarder, Seigneur, aux gens minables comme nous. Merci de regarder aux gens inutiles comme nous. Merci, Seigneur, de regarder aux gens faibles comme nous, oh Dieu. Seigneur, Seigneur, il n'y a que toi, Seigneur. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Tu es tout pour moi, oh Dieu. Les uns, Seigneur, oh Dieu, peuvent s'appuyer sur les hommes élevés de la famille. Les autres peuvent s'appuyer sur les relations qu'ils ont, oh Dieu. Mais toi, tu es tout pour moi. Tu es tout pour ma vie. Tu es tout pour ma maison, tu es tout pour ma famille, tu es tout pour mon bien-être, tu es tout, Seigneur. Je n'ai personne d'autre que toi. Tu es tout, Seigneur, oh Dieu. Je ne dirai jamais que tu prends une partie de ce que je suis, oh Dieu. Mais tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi. Tu es tout pour moi, Seigneur. Alléluia. Tu es tout pour moi. À toi toute la gloire, Seigneur. Au nom de Jésus, amen. Alléluia. Nous lui disons merci par nos applaudissements. Nous lui rendons toute la gloire. Nous célébrons son Saint-Nom et nous magnifions sa sainteté. Alléluia. Alléluia. Regarde à ton voisin, pose-lui la question, est-ce que Jésus est réellement tout pour toi? Parce qu'on peut venir à Jésus Mais on s'appuie sur autre chose. On s'accroche encore sur autre chose. Nous, pour nous, il est tout. Pour nous, on le partage avec personne. On le partage avec rien. Vous regardez à notre existence, il n'y a pas un oncle, il n'y a pas un père, il n'y a pas une mère, il n'y a pas une relation, il n'y a rien. Il n'y a que lui, il a pris tout l'espace, il a pris toute la place. Il a pris tout l'espace de notre vie. C'est lui qui est plein en nous. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Shalom, shalom. Moi, je suis dans la joie de vous voir ce matin en ces lieux. Est-ce que vous aussi, vous êtes dans la joie de me voir en ces lieux? Parce que moi, je suis dans la joie de vous voir. Je suis dans la joie de vous voir, vous qui nous suivez aussi au loin. Nous sommes dans la joie de vous savoir. Alléluia. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous lui disons merci pour ce jour et merci pour ce moment formidable dans sa présence, dans la louange et dans l'adoration. Amen. Que le nom du Seigneur soit béni. Nous disons merci également à l'homme de Dieu, notre frère, notre père, le pasteur Maurice Mouéou, qui a accepté, qui a voulu que ce matin que nous puissions intervenir dans ce culte dominical du centre évangélique francophone de la Borne Matadi, église sous sa responsabilité en ce dimanche de 8 octobre 2023. Nous croyons que Dieu, qui continue à se manifester dans sa vie, achèvera ce qu'il a commencé. Amen. Que Dieu se souvienne de lui là où il est. Et nous croyons que ce soir, à Montréal, de grandes choses se feront également là-bas. Amen. Que Dieu soit béni. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Ebenezer, la puissance du cri de l'adopté. Et nous sommes en train d'analyser la troisième marche de notre pyramide de maturation, que nous avons intitulé « Grandir et continuer à grandir malgré tout ». Grandir et continuer à grandir malgré tout. Et dans cette troisième marche, nous sommes en train d'analyser le troisième point dans la croissance d'un adopté que nous avons intitulé « Les trois dimensions de la croissance d'un adopté ». Les trois dimensions de la croissance d'un adopté. Et ces trois dimensions, c'est grandir en stature, c'est grandir en sagesse, et c'est aussi grandir en grâce. Et c'est là que nous sommes, grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes. Grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes. Luc chapitre 2, le verset 52. Luc chapitre 2, les versets 52, et Jean chapitre 1, les versets 17. Luc chapitre 2, les versets 52, Jean chapitre 1, les versets 17. Voilà, nous n'avons pas assez de temps, comme vous le savez, nous devons courir parce que juste après, nous avons ce grand programme, ce grand rendez-vous de la collecte. Mais avant, bien avant cela, nous avons ce rendez-vous merveilleux de la parole de Dieu. Amen. Luc chapitre 2, les versets 52. Jean chapitre 1, les versets 17. Je lis la parole de Dieu au nom de Jésus. Et Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Jean chapitre 1, les versets 17. Car la loi a été donnée par Moïse, la grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. La grâce et la vérité sont venues par Jésus-Christ. De sorte que, Seigneur, celui qui est incapable peut se réjouir. Celui qui est incapable peut se dire, enfin, au moins il y a quelqu'un qui est venu pallier à mes déficits. Tout ce que je ne pouvais pas faire par moi-même, il y a quelqu'un qui l'a pris en charge. Seigneur, merci pour la grâce. Merci pour la croix. Merci pour ta mort. Merci pour ta résurrection. Merci pour ce nouveau régime. Merci pour cet ordre nouveau dans notre vie, ô Dieu. Cet ordre qui est venu tout changer. Ce régime qui est venu tout changer dans notre vie. Autrefois, par la loi, nous étions tristes, mais la grâce est venue ôter notre tristesse. Ce matin, Seigneur, un homme, une femme est entré en ce lieu triste. Qu'il soit au contact de la grâce. Qu'il soit au contact de la grâce qui change la tristesse en joie. Qu'il soit au contact de la grâce qui change le malheur en bonheur, ô Dieu. Qu'il soit au contact de la grâce qui est capable, Seigneur, de pallier à nos déficits sous toutes les formes. Seigneur, tiens-nous la main ce matin encore. Parle à nos cœurs. Nous voulons nous laisser enseigner par toi. Bénis ta parole, qu'elle soit réellement une lampe à nos pieds et qu'elle nous montre les chemins par lesquels nous devons marcher. À toi toute la gloire, au nom de Jésus. Amen. Nous accueillons cette parole formidable, puissante et merveilleuse par nos acclamations et nos cris de joie. Nous acclamons, nous célébrons la parole qui élève, la parole qui distingue, la parole de Jésus. Cette parole puissante et magnifique. Amen. Grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes. Pas les dimanches passés, mais les dimanches d'avant, nous avions expliqué, nous avons essayé de comprendre l'essence du mot grâce. Parce que si nous ne comprenons pas l'essence de ce mot, nous risquerons de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Tous nous savons que la grâce est une faveur imméritée de Dieu. Mais nous avons compris ce dimanche-là que la grâce n'est non seulement la faveur imméritée de Dieu, mais la grâce nous annonce le changement de régime. La grâce est un régime nouveau. Un régime nouveau qui vient prendre en charge les incapables. Un régime nouveau qui vient prendre en charge ceux qui ne peuvent rien faire par leurs propres efforts. C'est cela la grâce. Un nouveau régime qui vient pour ceux qui sont tristes, comme l'avons vu avec ce jeune homme riche, incapable d'accomplir la loi. Et la finalité, c'était la tristesse. Et la grâce est venue comme un régime pour donner la joie à ceux-là qui sont tristes. Amen. Et ce matin, nous allons nous poser cette grande question, nous allons répondre à cette grande question. Comment grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes? Comment grandir en grâce? Comment grandir en grâce devant Dieu et devant les hommes à l'image de Jésus-Christ, notre modèle? Parce que la Bible dit que Jésus croissait en sagesse, en stature et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Et là, on parle de Jésus-Christ homme. On touche à l'humanité de Jésus. Il est venu comme tout homme. Il a obéi à ces lois, à cette loi du processus. Parce que tout ce qui naît doit grandir. Et lui aussi, il est né un jour. Et il devait obéir à ces processus. Mais comment lui, l'homme parfait, l'homme modèle pour nous, a pu grandir dans la grâce devant Dieu et devant les hommes? Avant toute chose, il est encore important pour nous de connaître ou de comprendre l'essence de la grâce dans la croissance de la personne de Jésus-Christ. Il est important pour nous de comprendre une fois de plus l'essence de ce mot, la grâce, dans la croissance de Jésus-Christ homme. Parce que nous avons dit que la grâce, tous nous la connaissons comme étant une faveur imméritée de Dieu. Et l'autre jour, nous avons dit que la grâce, c'est un nouveau régime, un régime nouveau, une dispensation nouvelle qui vient mettre fin à la première que l'on appelait ou que l'on appelle la loi. Alors, il est important ici de connaître le sens de la grâce qui touche à la croissance de Jésus. Parce que si nous ne comprenons pas l'essence de cette grâce-là qui touche à la croissance de Jésus, nous risquerons une fois de plus de faire dire à la Bible ce qu'elle ne dit pas. Amen. Si pour nous la grâce signifie tout simplement une faveur imméritée de Dieu, notez, si pour nous
La grâce signifie tout simplement une faveur imméritée de Dieu. Appliquer ce sens de la grâce à Jésus le placerait dans la même réalité de l'humanité déchue que nous. Suivez très bien. Si pour nous la grâce signifie simplement une faveur imméritée de Dieu, prendre ce sens et l'appliquer dans la croissance de Jésus placerait Jésus dans la même catégorie de l'humanité déchue comme nous. Parce que si nous disons Jésus croissait en grâce et que nous remplaçons grâce par la faveur imméritée, nous dirons et Jésus croissait en faveur imméritée devant Dieu et devant les hommes. Or, la Bible est en train de faire cette nuance, cette comparaison entre nous et Jésus. Pourquoi la grâce est-elle une faveur imméritée pour les hommes? Nous sommes dans Romains chapitre 3, les versets 23 au verset 24. Pourquoi la grâce est-elle une faveur imméritée pour les hommes? Elle est une faveur imméritée pour les hommes parce que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et la Bible continue pour dire, et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce, par les moyens de la rédemption qui est en Jésus-Christ. Tous ont péché. Toute l'humanité a péché et elle a été privée de la gloire de Dieu. C'est pourquoi lorsque cette humanité reçoit quelque chose de la part de Dieu, cela n'est pas un mérite. Cela est une faveur imméritée pour cet homme-là, pour l'humanité. Pour nous, c'est une faveur imméritée, mais pas pour Jésus. L'homme, par son péché, a été privé de la gloire de Dieu et ne mérite rien. Il a été privé de la gloire de Dieu par son péché et par conséquent, il ne mérite rien. Toute gloire dans laquelle il peut se retrouver aujourd'hui constitue véritablement une faveur imméritée de la part de Dieu. Parce qu'il a péché. Cependant, il n'en est pas le cas avec Jésus. La Bible dit dans 1 Pierre chapitre 2, le verset 22, « Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. » Lui qui n'a point commis de péché, et dans la bouche duquel il ne s'est point trouvé de faute. Comment lui qui n'a point connu de péché peut partager la même compréhension de la grâce que l'homme qui a totalement péché et a été privé de la gloire de Dieu? Donc cela veut dire, si pour nous la grâce est une faveur imméritée, la grâce n'est pas une faveur imméritée pour Jésus, parce que Jésus mérite tout. Jésus n'est pas dans une sorte de l'imméritocratie, Jésus mérite la gloire, Jésus mérite l'honneur, Jésus mérite la célébration, Jésus mérite l'élévation, Jésus mérite les honneurs, Jésus mérite qu'on le loue, qu'on l'exalte. C'est pourquoi même les mages sont venus de loin pour dire, nous sommes venus adorer le roi des Juifs qui vient de naître. C'était un homme qui était là, mais un homme sans péché. Lui, il mérite alors que nous ne méritons rien. Lui, il mérite que nous puissions le glorifier. Lui, il mérite que l'on puisse se prosterner devant lui. Lui, il mérite que l'on puisse chanter pour lui, alors que toi et moi, nous ne méritons absolument rien. C'est lui le patron de la grâce. C'est lui le distributeur de la grâce, je vais dire à un homme ce matin. C'est lui qui pouvait dire à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je fais miséricorde. La grâce ne peut pas être une faveur imméritée pour Jésus là. Il était homme sur la terre, mais il était 100% Dieu. En tant qu'homme sur la terre, il méritait l'adoration des hommes sur la terre. C'est pourquoi même le brigand sur la croix pouvait dire à son collègue, nous méritons cette peine, mais lui ne mérite pas de mourir là, il ne mérite pas cette punition, il ne mérite pas qu'il souffre comme nous. Jésus n'est pas à comparer. Jésus est incomparable. Je vais dire à quelqu'un ce matin, Jésus est incomparable. Jésus n'est pas à mélanger avec les hommes. Les hommes ne méritent rien, mais Jésus mérite toutes choses. Les hommes ne conviennent à rien, mais Jésus convient pour toutes choses. Alors Jésus n'est pas à mettre dans le même sac avec les hommes. Jésus n'est pas à mettre dans les mêmes sacs avec les hommes. Il n'en est pas le cas avec Jésus-Christ homme. Si la grâce est une faveur imméritée pour l'homme qui a péché et privé ensuite de la grâce de Dieu, comment devons-nous appliquer cette compréhension à Jésus qui n'a point commis de péché, de la bouche duquel n'est sortie aucune parole, aucune fraude? Alléluia. Jésus est merveilleux. La grâce n'est donc pas une faveur imméritée pour Jésus, d'autant plus que c'est lui le patron de la grâce. C'est lui le distributeur de la grâce. Parce que la grâce est venue par lui. Comment le patron ne va-t-il pas mériter ce qu'il donne aux autres? Jésus est formidable. Alléluia. Alors, quel est alors le vrai sens de la grâce qui touche à la croissance de Jésus? Si la grâce qui touche à la croissance de Jésus n'est pas une faveur imméritée, alors quel est le vrai sens de la grâce qui touche à la croissance de Jésus? L'apôtre Paul répond à cette question dans 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 au verset 10. Voici ce que l'apôtre Paul nous fournit comme réponse dans 2 Corinthiens chapitre 12, du verset 7 et jusqu'au verset 10. Le contexte est ici, c'est que l'apôtre est en train de parler de cette révélation qu'il a reçue. Il est allé jusqu'au troisième ciel et il a vu des choses qu'il n'est pas permis à un homme de dire, de parler, de raconter. Et il parle de cette expérience. Et en parlant de cette expérience, voici ce qu'il dit. Il a vu des choses extraordinaires et il dit ceci au verset 7 jusqu'au verset 10. Il dit quoi? Et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil, c'est-à-dire enflé d'orgueil en rapport avec ce qu'il venait de voir. Et dit, et pour que je ne sois pas enflé d'orgueil à cause de l'excellence de ces révélations, il m'a été mis une écharde dans la chair, un ange de Satan pour me souffleter et m'empêcher de m'enorgueillir. Il dit quoi? Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Trois fois j'ai prié le Seigneur de l'éloigner de moi. Et il m'a dit, lisons tous ensemble, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Je me glorifierai donc bien plus volontiers de mes faiblesses, afin que la puissance de Christ repose sur moi. C'est pourquoi je me plais dans les faiblesses, dans les outrages, dans les calamités, dans les persécutions, dans les détresses pour Christ. Car quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. L'apôtre explique que j'ai été amené à ce niveau élevé. J'ai vu des choses extraordinaires qu'il n'est pas permis à un homme de raconter et même pas de voir. Dans son humanité, Dieu l'a amené à ce niveau de la spiritualité. Il voit des choses extraordinaires. Et il dit que pour que je ne m'enorgueillisse pas, Dieu a fait quoi? Il a mis une écharde sur moi. Beaucoup de commentaires autour de cette écharde. Les uns parlent de la sécrétion au niveau des yeux. Les autres parlent vraiment d'une bosse sur son corps. Bon, bref, on n'est pas là pour décortiquer l'écharde là et donner des explications et même écrire tout un livre autour de l'écharde de Paul. Ce n'est pas ça le problème. Mais est-il que dans sa chair, il avait une faiblesse. Il avait quelque chose qui n'allait pas. Et il dit que cette écharde, il l'appelle lui-même un ange de Satan pour souffler sur son corps afin qu'il ne s'enorgueillisse pas, qu'il ne soit pas enorgueilleux. Mais il dit quelque chose de très important. Il dit, trois fois j'ai prié. Trois fois j'ai prié. Mais il m'a été dit, ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Le grand Paul, le grand intercesseur, il a prié pour les malades. Et même les gens ont, je ne sais pas par quel mécanisme, ramassé ou trouvé quelque part les mouchoirs de Paul. Ils les prennent et puis ils appliquent sur les malades sont guéris. Mais lui-même, il dit, moi-même qui fais ces choses, moi-même par qui mon mouchoir guérit les gens, j'ai prié combien de fois? Trois fois j'ai prié. Trois fois j'ai prié. Il avait prié pour Épaphrodite, qui était malade. Et Dieu a opéré par un don de guérison. Dieu a opéré un miracle et Épaphrodite a été guéri. Mais quand ça arrive à son propre tour, il dit, 3 fois j'ai prié, mais il n'est pas guéri. Et Dieu lui répond pour lui dire, ma grâce te suffit. Pourquoi? Ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Nous voyons dans la réponse de Dieu 2 mots essentiels ici. Dieu dit, ma grâce te suffit. Et il ajoute, ma puissance. Nous sommes là dans le cours de grammaire. Il y a un adjectif possessif qui revient ici. Il dit, ma grâce. Et il ajoute, ma puissance. En d'autres termes ici, la grâce n'est non seulement, la faveur imméritée de Dieu, mais la grâce est aussi la puissance de Dieu donnée gratuitement à l'homme pour lui permettre de faire des choses extraordinaires malgré son état de faiblesse. La grâce est non seulement la faveur imméritée de Dieu, je reprends la définition, la grâce est non seulement la faveur imméritée de Dieu, mais la grâce de Dieu est aussi la puissance de Dieu, donnée gratuitement à l'homme pour réaliser des choses extraordinaires malgré son état de faiblesse. Malgré qu'on le voit vulnérable, malgré qu'on le voit impuissant, malgré qu'on le voit dans la faiblesse, il a une écharde sur son corps, il a quelque chose qui ne va pas dans son corps, mais la puissance de Dieu est là en actualité, la puissance de Dieu est là abondante en lui, on le voit extérieurement faible, on peut voir la personne de Paul, peut-être que c'est la sécrétion au niveau des yeux, mais un homme puissant, et c'est là que nous voyons une autre dimension de la grâce. La grâce n'est non seulement la faveur imméritée de Dieu. La grâce n'est pas seulement ce régime qui a changé, mais la grâce nous parle aussi de la puissance de Dieu qui vient au secours des faibles, qui vient au secours des gens qui ne peuvent pas par eux-mêmes faire quoi que ce soit. Alléluia. C'est pourquoi je voudrais dire à un homme faible ce matin que toute ta vie ne se limite pas dans cette faiblesse-là. Il n'y a pas que la faiblesse en toi. Les gens verront tes faiblesses. Ils verront ta vulnérabilité. Mais il y a quelque chose qui leur échappera. Il y a la puissance de Dieu qui est invisible à l'œil nu, mais qui est au-dedans de toi. C'est cette puissance-là qui te fera faire des choses extraordinaires. Ce n'est pas tout ce qu'il y a dans ta vie. Tu es faible, c'est un état, mais il y a autre chose qui échappe aux hommes, la grâce toute suffisante de Dieu. Cette grâce qui vient déployer la puissance de Dieu dans ta vie. C'est pourquoi vous allez voir que malgré la faiblesse financière de cette maman, juste avec le pain qu'elle vend, elle peut faire étudier les enfants jusqu'à l'université. On regarde, on dit, mais là, normalement avec ce pain ici, elle ne peut pas faire étudier les enfants jusqu'à l'université. C'est pour dire à quelqu'un, là où il y a tes faiblesses, la grâce vient. La grâce vient comme une puissance. La grâce vient comme une énergie pour suppléer, pour pallier à tes incapacités. Vous pouvez être en face d'un homme, d'une femme, faible parce que malade tout le temps, mais elle est en train de manger bonne année après bonne année. Et ceux qui sont en bonne santé, on entend parler de leur décès. Mais elle, mais lui, bien qu'étant malade, faible dans son corps, la puissance de Dieu agit. Elle peut fêter. Il peut fêter la bonne année cette année. Il va encore fêter la bonne année de l'autre côté. On pose la question pour dire, mais on disait qu'à coup Lobby. On disait qu'il ne vivra pas, mais qu'est-ce qui fait qu'il demeure encore vivant? Il y a la puissance de Dieu, la grâce de Dieu. Dieu va dire à un homme ce matin, ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste dans la faiblesse. Je n'attendrai pas que tu sois fort pour déployer ma puissance. Je te veux dans cet état de faiblesse. Je te fais fonctionner dans cet état de faiblesse afin de manifester ma puissance. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Es-tu faible ce matin financièrement? la grâce de Dieu te suffit. Es-tu faible sanitairement ce matin? La grâce de Dieu te suffit. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Vous pouvez voir une jeune femme sans beauté, ça dit faiblesse du côté de la beauté. Mais vous ne pouvez pas imaginer, dans tous les quartiers, cet homme-là qui vient bien en place, il dépasse tout ce qu'il y a de cabello, il dépasse tout ce qu'il y a de robe et tout ça. Mais il va voir celle-là qui est au fond. Pourquoi? Parce que quand on regarde à la beauté, elle n'est pas classée. Quand on regarde au nom, elle n'est pas classée, mais il y a une autre force. Il y a une autre puissance. Il y a une autre énergie. Comment comprendre que quelqu'un qui n'a pas de relations, que quelqu'un qui n'a pas des appuis à gauche et à droite, mais il arrive quand même à avoir cette promotion, que tout le monde a obtenu par des branchements, que tout le monde a obtenu par des recommandations. Lui, il n'a pas une recommandation humaine, mais sa seule recommandation s'appelle la grâce suffisante de Dieu. La grâce suffisante de Dieu. La grâce suffisante de Dieu qui vient comme une puissance de Dieu. Car ma grâce, ma puissance. Ma grâce, ma puissance. Je voudrais dire à un homme ce matin, il y a une puissance qui est supérieure à celle des hommes. Il y a une puissance que tu ne maîtrises pas. Il y a une puissance que tu ne comprends pas. Alléluia. Alléluia. Tu n'as pas de diplôme. Tu n'as pas de formation en ceci ou en cela. Mais on ne comprend pas. Tu arrives à un niveau où tu as des collègues diplômés. Tes collègues sont des docteurs, des tridocs. Mais quand on regarde chez toi, il y a une puissance que vous ne contrôlerez jamais. Il y a une force que vous ne contrôlerez jamais. C'est pourquoi quelqu'un a fait cette analyse pour dire, à l'école, ceux qui réussissent avec 60, 70, 80, même 90%, ils étudient pour aller chercher du travail ailleurs. Mais il y a une autre catégorie de ceux-là qui sont dans les 40, 30 et même 20. Ceux-là, ils ne pourront jamais chercher le travail ailleurs. Mais qu'est-ce qu'ils font? C'est eux qui créent de l'emploi et ils engagent ceux qui ont 70. Ils engagent ceux qui ont 80 et ils engagent ceux qui ont 90. Comment comprendre cela? C'est-à-dire, là où ils ont 30, il y a 40 qui échappent. Il y a 50 qui échappent. Ces 50 qui échappent là, c'est ça la grâce. C'est ça la grâce. Ce qui vient pallier au déficit, la puissance de Dieu. Alléluia. Pour Daniel, quand la grâce de Dieu est là, les légumes suffisent pour faire la différence d'avec le monde qui vit dans les meilleures conditions que nous. Daniel nous apprend, quand la grâce de Dieu est là, même avec les légumes, on peut faire la différence. Lisons dans Daniel chapitre 1er, du verset 8 au verset 15. Daniel chapitre 1er, du verset 8 au verset 15. La grâce est extraordinaire. Daniel 1, le verset 8, la Bible dit, Daniel résolut de ne pas s'essuyer par les mets du roi et par les vins dont le roi buvait. Et il pria les chefs des eunuques de ne pas l'obliger à s'essuyer. Verset 9. Verset 9. Dieu fit trouver à Daniel faveur et grâce. Devant qui? Devant les chefs des eunuques. Le chef des eunuques dit à Daniel, j'ai craint mon Seigneur le roi qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Car pourquoi verrait-il votre visage plus abattu que celui des jeunes gens de votre âge? Vous exposeriez ma tête auprès du roi. En d'autres termes, il y a des choses qui ont été prévues pour votre restauration. Ce sont ces choses-là, quand vous les mangez, en tout cas vous avez une bonne mine, tout le monde sait voir que Bato Baliak a bien, et même devant le roi, vous serez vraiment apprécié. Verset 10. 11. Allons-y s'il vous plaît. Alors, Daniel dit à l'intendant à qui les chefs des eunuques avaient remis la surveillance de Daniel, de Hanania, de Michel et d'Azaria, éprouve tes serviteurs pendant 10 jours et qu'on nous donne des légumes à manger et de l'eau à boire. Tu regarderas ensuite notre visage et celui des jeunes gens qui mangent le mets du roi. Et tu agiras avec tes serviteurs d'après ce que tu auras vu. Il leur accorda ce qu'ils demandaient et les éprouva pendant 10 jours. Verset 15. Au bout de 10 jours, ils avaient quoi? Meilleur visage et plus d'embonpoint que tous les jeunes gens qui mangeaient le mets du roi. Rien qu'avec les légumes, on le voit meilleur. Je voudrais dire à quelqu'un, quand tu as trouvé grâce, tu entres dans la catégorie des meilleurs. Ce n'est pas ce qui frappe aux yeux des hommes qui fera de toi le meilleur. Mais la grâce de Dieu peut passer même par les légumes. La grâce de Dieu peut passer par ce qui est inutile. La grâce de Dieu peut passer par ce qui est faible. Ce qu'on ne voit pas, ce qu'on ne regarde pas, la grâce de Dieu peut passer par là. Afin de manifester la puissance de Dieu. Amen. Amen. Alléluia. Oh Jésus. Formidable. Daniel nous montre que même avec les légumes, la grâce peut nous donner une bonne mine. C'est pourquoi, vous allez voir, il ne travaille pas. Il n'a pas un bon travail comme s'il était directeur quelque part. Mais les enfants le jouent en place. Ils accomplissent ce que tu es là. Et qu'est-ce que tu as dit? Ce n'est pas que continuer ce côté et tout ça. Non. Mais tu te poses des questions. Mais comment ils sont comme ça? Avec les mains tembelées seulement. Mais la santé est assurée. Ah, Jésus. Il faut aimer Jésus. Il faut aimer Jésus. Donc, la grâce de Dieu nous parle de la puissance de Dieu. Et lorsque Luc parle de Jésus qui croissait en grâce devant Dieu et devant les hommes, Luc ne dit pas ici que Jésus croissait en faveur imméritée de Dieu. Ça n'a pas de sens. Luc veut tout simplement dire que Jésus croissait en puissance. Jésus croissait en puissance devant Dieu et devant les hommes. Et c'est possible que tu croisses en puissance. La puissance que tu avais hier, ce n'est pas la même puissance que tu auras demain. David dit dans Psaume, le verset, chapitre 23, le verset 6, il dit, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours. En d'autres termes, oui, le bonheur et la puissance m'accompagneront tous les jours. Ça veut dire la puissance que j'avais hier ne sera pas la même que j'aurai aujourd'hui ou que j'aurai demain. Tout enfant de Dieu est appelé à vivre la puissance au quotidien. Vivre la croissance et la puissance de Dieu. Pourquoi Jésus devait-il grandir en puissance, en grâce, c'est-à-dire en puissance, devant Dieu et devant les hommes? En quoi est-ce que cela a été si important pour Jésus de grandir en puissance, en grâce, en puissance? Voici ce que Matthieu nous dit le jour où Jésus est né, le jour où sa croissance physique avait commencé. Parce que nous répondons à la question de savoir comment grandir en grâce, comment grandir en puissance et pourquoi c'est si important de grandir en puissance. Voici ce que Matthieu dit le jour où Jésus est né, le jour où sa croissance physique avait commencé. Nous sommes dans Matthieu chapitre 2, du 1er au 3e verset. Matthieu chapitre 2, 1 à 3. La Bible dit, Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent, « Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. » Le roi Hérode ayant appris cela fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Jésus vient de naître, l'homme par qui la grâce est venue. Il vient de faire son entrée. En d'autres termes, la grâce vient de faire son entrée dans le monde. Il vient de naître sur la terre. Et voici les mages sont venus de l'Orient, ils ont vu son étoile au loin. Et ils arrivent à Jérusalem. Et la personne qu'ils rencontrent devant eux, c'est le roi lui-même, le roi Hérode. Et il se renseigne, il pose la question, où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient. Hérode qui apprend cela, Hérode est troublé. Non seulement qu'Hérode est troublé, mais aussi tout Jérusalem est troublé avec lui. La question qu'on se pose toujours est celle de savoir pourquoi Hérode, pourquoi le roi assis sur le trône, pourquoi Hérode est-il troublé? Il est troublé devant qui? Il est troublé devant un bébé. Il est troublé devant un petit enfant. Il n'est pas troublé devant quelqu'un qui a déjà une milice autour de lui. Il n'est pas troublé devant celui qui a déjà des gardes du corps, qui a déjà des gens importants autour de lui. Mais il est troublé devant un petit enfant qui n'est pas né, qui n'est pas né dans la maternité au vrai sens du mot. Il est né dans une étable, dans la maison des bêtes. Et ceux qui sont en face de lui, ce sont des bêtes. Il est là couché dans les mangeoires des bêtes. Mais il fait trembler le roi Hérode qui est assis sur le trône. Frères et sœurs, Hérode ici c'est l'image du diable lui-même. C'est l'image de Satan et de sa puissance. Tandis que Jésus est le Dieu Tout-Puissant venu en chair au milieu des hommes. Car Ésaïe chapitre 9, le verset 6 nous le dit clairement. Un fils nous est né, un enfant nous est donné. La Bible ajoute pour dire, car la domination, autrement dit la puissance, reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, on l'appellera conseiller, on l'appellera Dieu puissant, on l'appellera prince de paix. C'est celui-là qui venait de faire son entrée ce jour-là en Israël. Hérode sur son trône, il apprend qu'un enfant est né, mais Hérode sait que cet enfant-là n'est pas un simple enfant. Dans le monde spirituel, Hérode comprend qu'il y a une guerre qui vient de s'engager ici. Ce n'est pas une guerre au niveau physique, mais c'est une guerre au niveau spirituel. Vous voyez un enfant, mais moi je vois celui sur qui repose la puissance. Je vois celui sur qui repose l'autorité, le règne et toute la gloire. C'est pourquoi il peut être troublé. Il faut comprendre une chose, frères et sœurs. Dans le monde spirituel, il n'est pas question d'argent. Il n'est pas question de biens matériels. Dans le monde spirituel, il est question de puissance. Dans le monde spirituel, il est question de puissance. C'est pourquoi ceux qui consultent les sorciers, ceux qui vont dans l'occultisme, si l'un est allé dans telle maison, l'autre va dans telle autre maison. C'est pas pour chercher des véhicules, non, c'est pour chercher la puissance. Pourquoi? C'est parce que c'est celui qui est puissant qui influence. C'est celui qui est puissant qui est capable d'influencer. Et Hérode ici est troublé. Pourquoi? Parce que Hérode règne sur Jérusalem. Or, Jérusalem est appelée la ville du roi. La ville du grand roi. Or, Jésus-Christ est celui, le grand roi. C'est lui le Melchisédek, le roi de Salem. C'est-à-dire Salem, Salam, la paix. Le prince de paix dont a parlé Esaïe. C'est lui qui vient maintenant de naître dans sa ville. Et lorsque Hérode voit ça, Hérode dit, le rapport est au niveau de puissance ici. Alléluia. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Il y a un problème qui se pose à Jérusalem. Hérode est puissant, mais il y a un plus puissant que lui qui vient de naître. Jésus est encore bébé, mais il n'attend pas des années pour déployer sa puissance. Il est encore bébé, mais il fait trembler le roi qui est sur le trône. Ça veut dire que la puissance de Dieu n'est pas une affaire de renvoyer à plus tard. La puissance de Dieu, c'est maintenant. C'est là, aujourd'hui. Je suis né en Jésus. Je suis directement puissant et je peux faire trembler le roi qui est assis sur le trône. Je suis faible au dehors. C'était pas un Jésus à 30 ans. C'était un Jésus à quelques heures seulement, mais puissant au-dedans de lui. Ce qui fait ta puissance n'est pas ce que tu es au dehors. Ce qui fait ta puissance, c'est ce que tu es à l'intérieur. Au dehors, c'était un enfant. Au dehors, c'était un bébé. Mais au-dedans de lui, c'était un puissant qui a mobilisé le ciel tout entier. Toute l'armée du ciel était mobilisée. Il pouvait attirer les mages vers lui. Je vais dire à un homme ce matin, la grâce qui déclenche la puissance attirera les mages, attirera les honneurs, attirera la gloire, attirera les respects. trompé attirera la considération. Tu es humilié, tu es déconsidéré parce qu'on a regardé à ta mise extérieure, on a regardé à ton dehors, on a regardé à ce que tu manques, mais au-dedans de toi, tu es quelqu'un qui fait trembler le roi. Au-dedans de toi, tu es quelqu'un qui fait bouger tout Jérusalem. Les gens regarderont à gauche, à droite, autour de ta famille. Ils ne trouveront pas quelque chose qui soit de nature à faire trembler. Mais il y a la grâce de Dieu. Il y a la puissance de Dieu. Tu es un bébé, mais tu dégages la puissance. Je vais dire à un homme ce matin, ne t'étonne pas si tu vois les gens être troublés autour de toi. Ne t'étonne pas si tu vois cette année les gens être troublés autour de toi. Ça ne sera pas ta beauté qui va les troubler. Ça ne sera pas ton intelligence qui va les troubler. Ça ne sera pas tes diplômes qui vont les troubler, parce que tu n'en auras pas et parce que tu n'en as pas. Mais ce qui va les faire troubler, c'est la grâce. Car la grâce entre et rend des troublés. C'est la grâce qui est entrée en Jérusalem. Car la grâce est entrée et rend des peuples tenir, et rend des perturbés, et rend des troublés. Ne regarde pas tes compétences. Ne regarde pas ton français qui n'est pas au point. Ne regarde pas tes avoirs. Il y a la grâce de Dieu qui est en toi. La grâce fera trembler le directeur. La grâce fera trembler le gouvernement. La grâce fera trembler les puissants. La grâce fera trembler ceux qui sont sages. La grâce fera trembler les gens autour de toi. Ne regarde pas ta faiblesse. Ne regarde pas ce que tu manques. Ne regarde pas ta petitesse. Il était juste un bébé. Il n'était qu'un bébé là couché. Mais il pouvait faire trembler le roi qui est là assis sur le trône. Tu te dis, je suis petit. Comment je vais faire dans ce monde? Comment je vais sortir la tête dans ce monde? Ce n'est pas un problème. Entre dans la grâce. Accède à la grâce. Vis dans la grâce. Il y a une puissance qui sera déclenchée. Il y a une puissance qui sera libérée. Il y a une puissance qui sera mise en jeu pour toi. Il y a une puissance qui te prendra en charge. Il y a une puissance qui viendra pour déployer toute l'énergie créatrice. Alléluia. Alléluia. Gédéon pouvait dire, alors qu'il venait de rencontrer l'ange de l'Éternel face à face, qui est l'image de Jésus dans l'Ancien Testament, Dieu lui dit, va avec la force que tu as et tu battras Madian comme un seul homme. Écoutez la réponse de Gédéon. Je suis, ma famille est la plus pauvre à Manassé, et moi-même je suis le plus petit de ma famille. Mais Dieu les regarde pour dire, va avec la force que tu as. Va avec la puissance que tu as. Va avec la force. La force et la puissance. Va avec la puissance que tu as. Et qu'est-ce qui va se passer? Le jour où Gédéon détruit la statue de Baal qui était dans la maison de son père, Joas, c'est toute sa famille et tous les gens de son village qui vont se liguer contre lui pour dire, faites-le sortir. Nous allons le tuer, il mérite la mort. Mais quelques temps après, la Bible dit, et Gédéon fut revêtu de l'Esprit de l'Éternel. Il sonna de la trompette. Il sonna de la trompette. Les mêmes personnes qu'il avait refusées hier, ils sont convoqués et ils peuvent marcher à sa suite. Il sonne encore de la trompette. Manassé, qui est sa tribu, pouvait encore marcher à sa suite. Je voudrais dire à un homme ce matin, il n'y a pas de grâce sans la puissance de Dieu. Il n'y a pas de grâce sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus pouvait dire à ses disciples, dans Actes chapitre 1, verset 4, ne quittez pas Jérusalem. Ne partez pas encore. Mais attendez la puissance de Dieu. Attendez le revêtement du Saint-Esprit. Et au verset 8, il peut dire, mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins. Vous ne serez pas des pasteurs, mais vous serez mes témoins. Tu seras en train de travailler, mais témoin de la grâce de Dieu. Tu seras en train de faire les affaires, mais témoin de la grâce de Dieu. Tu seras en politique, mais témoin de la grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu te conduira. La grâce de Dieu te dirigera. La grâce de Dieu fera ce que tu es incapable de faire. La grâce de Dieu accomplira de grandes choses dans ta vie. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Grandir en grâce, c'est grandir dans la puissance de Dieu. Grandir en force, grandir en puissance de Dieu, grandir en gloire de Dieu. Tu ne seras pas ce que tu es et tu ne t'arrêteras pas là où tu es. Tu ne te limiteras pas à ce que les gens connaissent de toi. Jésus est venu dans ta vie. Il n'est pas venu en touriste. Il est venu déployer son énergie. Il est venu déployer sa puissance. La Bible parle des disciples de Jésus. La Bible dit, alors qu'ils ont reçu l'ordre de ne pas quitter Jérusalem, mais d'attendre la promesse du Père, ils sont revêtus de la puissance de Dieu. Et on les voit prêcher dans tout Jérusalem. Et ils sont traités de gens qui ont rempli Jérusalem du message de Jésus. Mais ces gens qu'on voit influents jusqu'à ce niveau-là, la Bible dit, c'était des gens du peuple. C'était des hommes sans instruction. C'est-à-dire, il y a une faiblesse en eux. Les rabbins, les chefs religieux juifs étaient des savants, des intellectuels, l'élite du pays. Mais eux, ils n'étaient pas instruits. Ils étaient pour la plupart des Galiléens, des pêcheurs. Ils n'avaient pas tout ce qu'il fallait. Mais la Bible dit, on les reconnut pour avoir été avec Jésus. On les reconnut pour avoir marché avec la grâce. On les reconnut pour avoir été en contact avec la grâce. Quand la grâce vient, ton niveau d'instruction ne compte pas. Quand la grâce vient, ton impopularité ne compte pas. Tu peux faire des exploits. Tu peux devenir influent. Parce que c'est celui qui est puissant qui peut influencer. Ta vie n'a jamais influencé. À partir d'aujourd'hui, la grâce va commencer une influence dans ta vie. La grâce va commencer à influencer toutes choses dans ta vie. Ils ont influencé en Jérusalem. Ils ont influencé en Judée. Ils ont influencé en Samarie. Et ils ont influencé jusqu'à l'extrémité de la terre. Ton influence ne s'arrêtera pas là où tu es. Parce que la puissance qui est en toi, c'est une puissance qui va au-delà des frontières, qui va au-delà des limites. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu. La grâce de Dieu, la puissance de Dieu. Veux-tu t'élever là où tu es? Veux-tu t'élever là où tu es? Et dire à Dieu, je n'ai pas de puissance. Je n'ai pas de puissance. Dieu dit dans l'Apocalypse, à l'église de Philadelphie, puisque tu as peu de puissance, mais que tu as gardé la parole, tu as gardé ma parole. Voici, j'ouvre une porte. Pour un homme, ce matin, Dieu ouvre une porte de sa puissance. Dieu ouvre une porte de sa puissance. Les disciples qui étaient remplis dans Actes chapitre 2, le verset 1, le suivant. On les voit encore dans Actes chapitre 4. La Bible dit, ils furent remplis du Saint-Esprit. C'est-à-dire, il n'y avait pas de limite pour eux. Il s'était dit, dans ce monde sans puissance, on va te dominer. Dans ce monde sans la puissance, c'est l'influence des autres qui l'emportera sur nous. Frères et sœurs, dans ce monde sans la puissance de Dieu, c'est l'influence du puissant qui va l'emporter sur toi. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu ne peux pas marcher dans ce monde sans la puissance de Dieu. C'est pourquoi Jésus va dire aux disciples, ne quittez pas Jérusalem. Ne quittez pas Jérusalem, attendez le revêtement. Je t'en supplie ce matin, demande la puissance de Dieu. Demande la puissance de Dieu dans ta vie. Demande la puissance de Dieu dans ta vie. Hérode est là. Hérode est déjà là. Hérode n'acceptera pas qu'il soit dépouillé. Hérode n'acceptera pas qu'il soit détrôné. Hérode sait qu'il y a en toi la grâce de Dieu. Et il va chercher à te tuer. Il va chercher à te tuer. Hérode cherchera à te tuer. Mais tu as besoin de la plénitude de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la plénitude de la puissance de Dieu. C'est pourquoi tu vas dire à Dieu que je grandis en puissance. Que je crois en puissance. Que je grandis en puissance. Et je t'informe. Comme David l'a dit dans Psaume 62, verset 28. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Ton Dieu ordonne que tu sois puissant. Je t'informe qu'il est temps que tu sois puissant. Il est temps que tu sois puissant. Le monde est ce qu'il est. Il est temps que tu sois puissant. Il est temps que la grâce de Dieu te donne la puissance de Dieu. Il est temps que tu vives la puissance de Dieu. Il est temps que tu vives la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Veux-tu dire à Dieu, je suis en danger. Veux-tu dire à Dieu, je suis en danger, je suis faible. Je suis faible. Je suis faible. Je suis faible. Mais je compte sur ta puissance. Je suis faible. Mais je compte sur ta puissance. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Veux-tu élever la voix? Veux-tu élever la voix? Veux-tu élever la voix? Veux-tu dire à Dieu, j'ai besoin de ta puissance. J'ai besoin de ta puissance. Dans ce monde, sans la puissance, tu seras effacé. Sans la puissance, tu seras éjecté. Sans la puissance, tu seras écarté. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Tu as besoin de la puissance de Dieu. Alléluia. 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 Tu es assez puissant, Seigneur, pour remplir ces vies. Tu es assez puissant pour remplir ces vies. Tu es assez puissant pour nous remplir ce matin encore. Quand ta grâce vient, le régime a changé. Mais dans ce nouveau régime, on marche avec la puissance. Dans ce nouveau régime, on marche par la puissance. Ma grâce te suffit, car ma puissance se manifeste. Ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Nous avons nos mains levées. Avant que je ne prie pour vous, je voudrais que nous puissions prier pour le pasteur Maurice. La faiblesse est là. Et nous le savons tous très bien. La faiblesse dans son moral, dans son corps, dans son âme, cette faiblesse est notoire. Cette faiblesse est visible par tous. Mais nous allons prier pour dire à Dieu, que ta grâce déclenche la puissance. Que ta grâce déclenche la puissance. Est-ce que tu peux parler à Dieu dans ce sens? Que ta grâce déclenche la puissance. Car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. Mais il ne sera pas toute sa vie, oh Dieu, dans cette faiblesse. Seigneur, déclenche les mécanismes. Déclenche les mécanismes de ta puissance. Déclenche les mécanismes de ta puissance. Déclenche les mécanismes de ta puissance. Seigneur, il ne peut pas te servir, oh Dieu, sans ta grâce, sans ta puissance, oh Dieu. Voilez et déclenche les mécanismes. En même temps, nous voulons prier pour notre frère Delphin Kabuya. Il est sorti de l'hôpital. Il est à la maison, mais il ne sait pas encore marcher. J'ai parlé avec lui hier soir et je l'ai réconforté pour lui dire, Dieu est capable de tout. Nous allons prier pour dire à Dieu là où il est, que Dieu déclenche les mécanismes de la grâce. Que la grâce libère la puissance. Que la grâce libère la puissance. Cette grâce qui pouvait dire au paralytique, lève-toi et marche. Lève-toi et marche. Lève-toi et marche. La puissance de Dieu avait enfermé les pieds de ces paralytiques. La puissance de Dieu est capable d'enfermer les pieds de Delphin Kabuya. Que la puissance les touche. Que la sensibilité dans les membres revienne. Que la sensibilité dans les orteils revienne. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Là où il est faible, oh Dieu. Que la force entre en jeu et les libère. Oh Seigneur, ta grâce. Ta grâce. Je vais prier pour vous, garder un moment de silence. Seigneur, c'est par ta grâce que le petit enfant pouvait faire trembler un roi sur le trône. Il était faible au dehors. Ce n'était qu'un bébé de quelques heures. Mais c'était la plénitude de la grâce qui était là. La plénitude de la puissance de Dieu qui était là. Or, tu es en nous, Seigneur. Tu es dans nos cœurs, oh Dieu. Tu vis au-dedans de nous, Seigneur. Autrement dit, la grâce est en nous. La grâce de Dieu vit en nous. Seigneur, déclenche les mécanismes de ta puissance. Guéris les malades en ces lieux. Relève les faibles financiers, oh Dieu. Relève les faibles sous quelque domaine que ce soit. Redonne de la puissance, oh Dieu. Et que la différence se fasse voir dans ce monde. Au nom de Jésus. Reprenez vos places. Merci Seigneur.